Nous voilà de retour aux amateurs de sport week-end. On vous rappelle la nouvelle de la journée, c'est la transaction de Pierre-Luc Dubois qui passe des Blue Jackets de Columbus aux Jets de Winnipeg, entre autres pour Patrick Laine. On va en parler dans quelques instants avec Guillaume Latendresse, en vous rappelant aussi qu'on va parler à Ray Lalonde vers 13h15 des Jeux olympiques qui potentiellement pourraient être annulés. On va parler à Stéphane Leroux vers 13h30 aussi du relancement du hockey junior du côté de la Ligue de hockey junior majeur du Québec hier soir. Et Nicolas Gill en fin d'émission aussi pour nous parler des jeunes athlètes qui ne savent pas trop sur quel pied danser pour ce qui est des Olympiques de cet été. On reçoit maintenant Guillaume Latendresse pour la première fois. C'est notre première ensemble en ondes. Salut Guillaume!
Salut Philo, comment ça va?
Ben, ça va très bien. Merci beaucoup d'être là avec nous. Puis en rappelant aussi aux gens que le podcast de La Poche Bleue va suivre cette émission à partir de 14h. Mais Guillaume, je pense que avant de parler de Pierre-Luc Dubois, je pense que vous avez, du côté de votre groupe, obtenu des informations privilégiées, même un peu plus fraîches là, sur le dossier de Philippe Danault. On sait qu'hier, du côté de la presse, on rapportait que potentiellement, il aurait refusé une offre de 6 saisons d'une valeur de 30 millions, ce qui nous a fait un peu sursauter. Je vais être bien franc avec toi, mais qu'est-ce que tu peux nous dire de plus là-dessus?
Les renseignements qu'on a eus, justement, le 6 ans, là, c'est ce qu'on souhaite avoir là, du clan Danault, c'est certain, okay. Qu'on a de l'intérêt de ce côté-là. Mais on penche plus dans les comparables avec un Brock Nelson des Islanders de New York qui fait un contrat de 6 ans pour 6 millions par saison. Donc, c'est plus vers ça qu'on s'enligne. On est prêt à, t'sais, selon ce qu'on avait rapporté dans la presse, là, c'est autour de 5 millions, l'offre qu'on avait reçue, ce qui fait du sens. Donc, on est prêt un peu à couper la poire entre nos attentes et les attentes du Canadien pour se retrouver autour de 5.5-5.7 sur un contrat de 6 ans. Donc, c'est un peu ce qu'on s'attend selon les comparables qu'on avait. Plusieurs personnes avançaient, puis même moi, je suis un de ceux qui voyaient beaucoup le contrat de Jean-Gabriel Pageau comme un exemple parfait. Mais il reste que lorsqu'on regarde les statistiques peut-être plus avancées, les mises en jeu, puis puisque tu sais, si on regarde même juste le rendement au niveau du trophée Selke, tu sais, ben Philippe est 5e, Jean-Gabriel est 13e, donc il y a quand même une différence là-dessus. Les commentaires de McKinnon qui viennent vraiment mettre du soleil, d'après moi, du côté du clan Dano, c'est extrêmement positif, puis c'est le fun aussi, puis on l'a dans notre cours. C'est un gars qui a une belle constance, donc voici ce qu'on s'attend du côté selon les informations qu'on a.
Écoute, je vais être bien franc avec toi. Je trouve que 6, c'est un peu beaucoup. Mm-hmm. C'est mon opinion. Au moment où on se parle, là, si on regarde les statistiques de cette année, les chiffres, il serait l'attaquant le mieux payé du Canadien de Montréal. Avec tout le respect que j'ai pour Philippe Danault, parce que c'est un gars que j'apprécie énormément, je ne sais pas, j'aurais comme un petit peu de misère de le placer là, dans mon échiquier. Moi, je vais être bien franc avec toi. Moi, le chiffre que je voyais... après la dernière saison, avec pandémie et tout ça, je voyais dans le 4,5, mais clairement, bon, je suis pas vraiment dans le même ballpark qu'eux, mais tu penses que le Canadien serait prêt à aller aussi près que ça?
On ira pas à 6, je pense pas. Si on fait une offre selon ce qui était sorti là, de 5 millions par saison, le Canadien, je crois pas qu'on va aller à 6 millions. On peut quand même s'entendre là, que comme je disais, couper la poire en deux, mais ce qui est difficile dans des choses comme ça, surtout sur des contrats à long terme de 6 ans, c'est qu'on parle de 500 000 mettons par année qu'on a de différence, mais sur 6 ans, ça fait quand même 3 millions de salaire, tu sais. Ouais. C'est quand même beaucoup d'argent laissé sur la table. Je crois que puis surtout qu'on est au courant aussi que dans le marché, des gars comme Philippe Danault, oui, il y en a, mais il n'y en a pas un par équipe. Là. Un gars qui est capable d'emmener ce que Philippe fait puis de la façon qu'il fait. Donc, je suis certain que sur le marché, il serait capable d'aller chercher des choses très intéressantes. Puis sûrement le montant qu'ils ont en tête. Mais il reste que quand même son désir de rester avec le Canadien est très, très grand. Donc, je pense qu'on peut profiter de ça. Mais je suis d'accord avec toi avec la pandémie et tout. Moi aussi, je voyais un 5 millions, un 4.55. Je pense que les chiffres sont raisonnables. Mais du côté du joueur, on a le droit aussi de défendre notre point puis de penser sûr. Qu'on vaut plus, surtout à l'autonomie. Donc, moi, je suis à l'aise dans ces discussions-là, puis, mais je suis d'accord avec toi aussi. Là.
Mais, tu sais, le risque qu'il prend, par contre, je vais revenir, par exemple, à l'exemple d'Alex Kovalev qui voulait rester à Montréal, puis pour moins qu'un million, on n'a pas été capable de s'entendre. Il s'est retrouvé avec les Sénateurs, mais il n'était pas bien ben heureux là-bas. Il aurait aimé ça rester ici. Donc, c'est quand même un risque que tu prends. Tu sais, on ne le sait jamais. Tu sais, un gars comme Tatar peut signer, il peut avoir moins d'argent disponible tout d'un coup. En tout cas, on verra ce qui va se passer.
C'est un risque à prendre, mais les fois dans une carrière qu'on peut avoir la chance de passer go, réclamer 200, ça passe pas à toutes les années. Donc, quand tu es dans cette situation-là, je pense qu'il faut que tu en profites au maximum. Puis, il y a des organisations qui sont prêtes peut-être à faire des pieds et des mains pour offrir une masse salariale puis avoir autant de chances de remporter. Je pense que ça aussi, c'est un autre point qui est important. L'opportunité que Montréal offre de remporter une coupe ou d'aller loin en séries éliminatoires, ça, c'est très important aussi, mais l'organisation...
C'est un game changer.
Exactement. Mais je suis certain qu'il y a des organisations qui sont dans une situation aussi favorable au niveau du classement puis au niveau de l'avenir pour être intéressées aussi.
Je me demande si les négociations d'il y a quoi, 3 ans, je crois, qui avaient été un peu ardues aussi à ce moment-là, ça laissait peut-être un petit peu des séquelles, puis que, tu sais, Philippe peut-être joue un petit peu la game, comme on dit. Je ne sais pas. Tu sais, je pense pas un gars rancunier, pas du tout, Philippe, mais je me demande si ça a quelque chose à voir. Je veux t'entendre sur la transaction de ce matin de Pierre-Luc Dubois qui s'en va à Winnipeg pour Patrick Laine. Premièrement, tu sais, ton analyse de cette transaction-là.
Superbe transaction du côté de Winnipeg. Honnêtement, les Jets frappent le coup de circuit pour moi. Pierre-Luc Dubois, il va emmener du... Pour moi, là, Gabin, ça va être très simple. Là. Pierre-Luc Dubois vient cadrer parfaitement dans l'alignement, dans le style de jeu qu'on a du côté des Jets. Et Patrick Laine vient briser complètement ce qu'on a en tête du côté de Columbus avec John Tortorella. Fait que pour moi, je comprends qu'on échange un problème contre un problème. Puis quand je dis un problème, c'est très, très, très simplement dans le sens de Pierre-Luc. Je pense pas que c'est une mauvaise personne. Je pense pas que c'est un mauvais joueur d'équipe. Il était pas heureux avec Tortorella. Il était pas heureux dans le marché de Columbus. Il voulait essayer ailleurs. Se retrouve à Winnipeg dans une situation favorable. Son père est dans l'organisation. Sa famille est là-bas. Donc ouais. Ça, c'est très favorable pour un joueur d'avoir sa famille près de lui. Des joueurs, tu sais, je pensais à ça, là, Wheeler, Connor, Hellers. Ils ont tellement une équipe rapide qui frappe, qui va au filet. Winnipeg vont être très dangereux. Puis Patrick Laine, dans ce style de jeu-là, cadrait peut-être un peu moins. Mais va se retrouver à Columbus. Et si Tortorella pensait que Pierre-Luc s'était traîné les pieds lors de la dernière présence, Laine va t'en mettre 40-50. Mais c'est juste que quand il ne met pas dedans, ça se peut que tu trouves ça plate.
Oui. Mais écoute, quand tu regardes ça, puis tu regardes le fait qu'on a donné un Patrick Laine, on dit que le Canadien était dans le coup là, jusqu'à la dernière minute ou à peu près. Y avait-tu un coup à jouer pour le Canadien ou à partir du moment où eux autres étaient prêts à laisser partir un gars comme Laine, le Canadien pouvait pas, disons, accoter ça?
Non, moi je pense que le Canadien avait pas ce qu'il fallait pour accoter un Patrick Laine. À partir du moment que Dubois se peinture dans le coin en disant « je veux partir », que Tortorella l'annonce aussi, que tout le monde est au courant, qu'il fait jouer 3 minutes, tu sais qu'une transaction va être imminente, tu sais que ça s'en vient, puis d'avoir un joueur de la trempe. T'sais, oui, on fait des blagues là, que Laine, ça sera pas parfait que Tortorella, mais il reste qu'un marqueur de but comme ça, ça se trouve pas à tous les coins de rue. Si on parlait de Philippe Dano, qui est un joueur qui en a pas 31 dans la ligue comme lui, ben je peux te dire que Laine, il en a pas 10. Si tu réussis à trouver la combinaison parfaite qui va faire en sorte qu'il va être la pièce centrale sur ton avantage numérique, qu'il va pouvoir utiliser son tir, puis que tout va être axé vers lui, je pense que Laine peut surprendre avec les Blue Jackets, mais il reste que... Moi, c'est plus quand on regarde derrière le banc que je me dis « Ouais, comment ça peut fonctionner? » Ça n'a pas marché avec Dubois qui... Dubois n'a jamais eu personne qui l'a critiqué pour son éthique de travail. Max Domi, personne ne l'a jamais critiqué pour son éthique de travail. Les deux se retrouvent dans les mauvaises grâces de Tortorella parce qu'ils font pas les petits détails que lui veut, imagine.
Ouais, mais il y a un historique, là, Tortorella, c'est ça l'affaire. T'sais. C'est ça que je disais avec Martin tantôt. Moi, je vais être bien franc avec toi. Quand il a été embauché par les Blue Jackets, je suis tombé en bas de ma chaise. Je pensais que sa façon de faire, c'était devenu révolu dans la Ligue nationale puis qu'il n'y aurait plus jamais personne qui lui ferait signe. J'ai été surpris de ça, mais là, il y a des dommages collatéraux. Clairement, les joueurs ne veulent pas rester à Columbus. Puis au début, on pensait que c'était peut-être le marché comme tel, mais je pense que Tortorella a quelque chose à voir là-dedans. Parlons un petit peu du match de ce soir.
Mais attends, je veux juste revenir là-dessus parce que oui, je suis d'accord que les joueurs ne veulent pas jouer. Puis quand on parle de ça, on parle des joueurs comme Panarin ou on parle de Duchesne ou on parle de Bobrovsky. Mais il reste que c'était 3 joueurs qui étaient joueurs autonomes qui avaient l'opportunité d'aller chercher encore une fois le gros montant. T'sais. Puis peut-être qu'on n'était pas prêt à aller aussi haut que les joueurs. Les attentes qu'il y avait. Fait que, oui, il voulait quitter le marché, mais il reste quand même que c'est un concours de circonstances au niveau des négociations puis au niveau de la valeur que le joueur s'évalue face à ce que Keke Leinen était prêt à donner. Fait que je pense aussi qu'il y a ça, mais au-delà de tout ça, Tortorella a une part de blâme à prendre là-dedans. Mais il reste que quand même. Moi aussi, je suis d'accord, quand ils l'ont engagé, j'étais comme, qu'est-ce qu'ils font là? Mais ben oui. Au final, là, il a quand même fait la job. Là.
Il y a eu du succès. Ben oui, il y a eu du succès. Écoute, On peut revenir un peu sur pas en fait sur le match de jeudi, mais tu sais, ça se transpose pour le match de ce soir chez le Canadien avec l'absence maintenant d'Armia qui malheureusement est commotionné. On a rappelé Corey Perry dans l'alignement, mais moi, Guillaume, j'ai été assommé de voir qu'on n'a pas suspendu Tyler Myers. Pour moi, c'est un geste vicieux, dangereux. Je me fous exactement de où le point de contact était ou c'était quoi le pourcentage de l'abdomen qu'on a touché par rapport à, tu sais, au menton et tout ça. Puis je trouve que la Ligue nationale joue un jeu dangereux parce que là, tu te retrouves avec deux équipes qui vont jouer un troisième match en quatre soirs puis qui vont avoir le sentiment de devoir régler des troubles. Si jamais ça débordait ce soir-là, et boy, je pense que la Ligue nationale va se regarder dans le miroir en se disant « On a-tu fait la bonne affaire? »
Ouais, je suis d'accord. D'un autre côté, la game a tellement changé. Tu sais, je pense qu'on va aimer mieux profiter des deux points de classement qu'on peut avoir puis revenir à la maison. Ouais, la game a changé. Je vois pas vraiment un joueur partir sur Tyler Myers puis vraiment essayer de faire payer quoi que ce soit. Tu sais, honnêtement, là, de mon côté, peut-être que ça va arriver. Puis, je suis d'accord avec toi au niveau de la suspension. Qu'est-ce qu'on aurait pu lui donner? Un match, tu sais. Moi, je suis d'accord avec la ligue que le point de contact principal est vraiment l'abdomen. Peut-être que ça se termine sur à la tête et que la chute a fait aussi en sorte qu'il y a peut-être eu un whiplash splash, mais il reste que quand même dans tout ça. Moi, ce que je veux qu'on enlève, c'est le fameux angle mort. Moi, c'est plus là que j'aurais pris soin du côté de la ligue de dire on le suspend un match ou deux, pas parce qu'il a frappé à la tête. Parce qu'il est allé directement dans l'angle mort, puis c'est là qu'on est vulnérable, puis c'est là justement que les gros problèmes de commotion arrivent, quand tu vois pas le gars arriver, puis le cerveau s'en va d'un bord, puis finalement, en un clin d'œil, il s'en va de l'autre bord. Je peux te dire que c'est le message je l'aurais passé plus face au blindside qu'au fait qu'on... Oui, parce que c'est débattable, là. Tu sais, la mise en échec, le premier coup, quand je l'ai vu, j'ai dit, ben, le point de contact de départ, c'est quand même le chest. Tu sais, c'est fait que... Le gars, il est 5 et 6 pieds quelque chose, 6 pieds 7, 6 pieds 8. Là-dessus, j'ai moins de problèmes. C'est vraiment le côté de l'angle mort, moi, qui me dérange. Ouais. Puis on avait un message à passer, puis on l'a manqué de ce côté-là.
Ben, malheureusement, c'est ça. T'sais, si on veut éviter que les gars soient blessés, disons qu'on n'a pas fait la job parce qu'on a un gars qui est commotionné présentement, on sait pas pendant combien de temps il va être à l'extérieur du jeu, donc on n'a pas réglé le trouble. T'sais, moi je me souviens qu'au football, Guillaume, à un moment donné au tout début, quand on a empêché les joueurs de frapper les corps à la tête, les gars disaient ouais mais moi je suis plus grand, puis la ligue a dit garde, on s'en fout de ça, c'est ça, tu fais pas 6 pieds 3 depuis hier, garde, non, t'as pas le droit, puis c'est tout, puis depuis ce temps-là, ben le problème est réglé, donc on met quand même l'emphase et on laisse ça dans les mains des joueurs de trouver le moyen justement d'éviter ce type de contact-là. Moi, je trouve que ça a plus sa place dans la Ligue nationale, mais ça, c'est juste moi. Guillaume, merci beaucoup d'avoir été là. Très apprécié. Bon match ce soir. On s'en reparle bientôt.
On s'en reparle bientôt. Salut.
Salut. Et on invite les gens, bien sûr, à écouter La Poche Bleue à partir de 14h sur nos ondes, tout de suite après ce beau programme. Nous, on fait une courte pause et au retour de ceci, on va parler avec Ray Lalonde. Ray Lalonde qui va nous parler de plusieurs sujets, dont les Jeux olympiques, l'Euro, qu'est-ce qui se passe dans les conventions, la convention collective de la MLS? Est-ce qu'on aura une saison cette année et plusieurs autres sujets avec notre expert sport business? De retour dans quelques instants.